En 1895, deux industriels et ingénieurs lyonnais, les frères Lumière, inventent un appareil, le cinématographe, capable de capter l'image en mouvement. Le cinéma est né. Ce qui n'était alors qu'une simple innovation technologique va devenir un art, le septième art, et même une industrie qui va révolutionner le monde du divertissement. La France est son berceau. Le cinéma français a toujours eu une place à part, représentait une sorte d'exception rayonnant à travers le monde. Le métier a évolué avec plus ou moins de succès, mais aujourd'hui il semble avoir vécu. On lui reproche un manque d'originalité, un manque de professionnels qualifiés, une désaffection du public pour le spectacle qu'il offre à côté des plateformes et streaming qui inondent le marché. Aujourd'hui, le cinéma national, et par la même occasion l'audiovisuel dans notre pays, se retranche dans son précaré, semblant adopter la posture d'irréductible, menacé de toutes parts, au bord de l'agonie. J'étais ce 24 octobre 2022 à Paris, dans les locaux de l'ESRA, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle dans le 15e arrondissement, afin de prendre la température de ce secteur en souffrance. Et pour ce faire, rien de mieux que d'aller demander leur avis à ceux qui font l'audiovisuel, les futurs producteurs, réalisateurs, techniciens et comédiens, bien sûr. Et maintenant, nous allons écouter Lucie Parot, comédienne professionnelle, qui va nous faire part de la lutte de tous les instants pour simplement exister professionnellement dans ce milieu fascinant.
Alors bonjour, je m'appelle Lucie Parot, donc je suis comédienne. J'ai commencé par le théâtre à l'école. Donc après j'ai fait une formation, une école de théâtre. Et j'ai commencé, j'ai fait des petites pièces dans des compagnies comme ça. Et puis est devenu l'audiovisuel. Le jour où je me suis dit que je ne voulais pas me limiter en fait à faire que du théâtre. Et donc j'ai commencé l'audiovisuel après en postulant comme ça un peu au hasard pour des courts-métrages étudiants. Je me rappelle, le premier, c'était même une figuration dans un court-métrage étudiant. Donc, je te laisse imaginer le truc. Et puis après, plusieurs courts-métrages. Après, la figure payée, on va dire. Voilà, j'ai commencé comme ça jusqu'à ce que j'obtienne un petit rôle dans une série télé. C'était Les Bracelets Rouges sur TF1. C'était dans la saison 1 parce qu'on a tourné en 2019. Entre ma formation et le travail, comme moi j'ai un parcours atypique et que j'ai dû arrêter pour raison personnelle ce métier pendant au moins 13 ans, on va dire que j'ai dû attendre 13 ans pour entre ma formation et le premier travail rémunéré en tant que comédienne. Ça varie vraiment d'un mois à l'autre. Hein. Tu peux avoir un mois où tu travailles pas du tout. Voilà, un mois où tu vas enchaîner des petits rôles, des dates, Et donc du coup, moi je sais que le plus gros salaire, on va dire, que j'ai eu dans le mois, ça a été jusqu'à 700 euros, net, hein. Je parle en net. ça varie tellement. Après on dit toujours, les comédiens c'est trop payé, mais en fait, par exemple je vais travailler 2 heures, je vais te payer 400 euros. Mais en même temps, le mois d'après, si je travaille pas du tout, toi, il faut pouvoir mettre quand même de côté, économiser, Ça a toujours été. Tu travailles, après oui, si tu trouves une pièce de théâtre qui va tourner, va trouver plusieurs dates, après, tu peux enchaîner 200, 300 représentations, tout ça. Donc, tu as, entre guillemets, pendant un certain temps, un petit confort. Tu peux te reposer un petit peu. Mais sinon, en fait, c'est un métier où tu recherches tous les jours du travail, en fait. Déjà, dans l'année, tu as une sorte de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des mois où il y a plus de tournages, plus de casting que d'autres. Là, tu sais pas pourquoi. Certainement, les productions, je sais pas comment elles gèrent leur date pour tourner. Donc, il y a certains mois, notamment, je pense que l'hiver, donc à partir de mi-décembre jusqu'à février, il y a un peu moins de tournage. Et après, avec les beaux jours et tout, forcément, tu as beaucoup plus de possibilités. Tu peux tourner à l'extérieur, donc tu as beaucoup plus de jours pour travailler. Et puis, Et puis après, tu as la question de l'âge, où arrive un moment où, en tant que femme, en plus, tu as aussi moins de rôle, tu vois, donc moins de possibilités de travailler. Après, il y a beaucoup de rôles pour les jeunes, parce que justement, même dans les écoles de réalisation, enfin voilà, l'école de cinéma, tout ça, enfin, comme ce sont des jeunes, ils écrivent leurs scénarios pour des jeunes, donc ils ont plus de possibilités de travail, enfin voilà. C'est normal, hein, c'est la vision, t'es jeune, t'imagines un jeune dans un film, enfin ça, c'est tout à fait logique. Mais ils sont énormément sur le marché, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop pour le monde du travail, ça c'est clair, mais ça a toujours été, hein. Ça a toujours été. Je pense que le comédien de base est beaucoup trop répandu. Je sais pas comment dire. Non, mais il y en a beaucoup. Même moi, ma génération à l'école, on était beaucoup trop nombreux. Les cours Florent, tout ça, comme t'en parles. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de. Ouais, il y a l'étiquette Florent, mais j'ai l'impression que même si t'as pas fait les cours Florent, les DIRCAST, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils regardent plus vraiment le CV. De toute façon, un DIRCAST ne regarde pas ton CV. Il va regarder à la rigueur, il regarde d'abord ta photo. Et si ta tête l'intéresse, il va regarder un petit peu ta bande démo. Le CV, c'est vraiment s'il a rien à faire de ses vacances. donc voilà. Donc les cours Florent. Et en plus, moi, je connais plein de gens des cours Florent. Je les ai pas fait moi parce que justement même à mon époque ça avait pas forcément la bonne réputation. Ça avait la réputation que on était beaucoup trop nombreux dans le cours et du coup passait que deux ou trois pendant les heures de travail et les autres bah voilà tu regardes et puis c'est bon tu travailles pas. Enfin après tu sors de là ouais t'as dit j'ai fait les cours Florent mais en fait si t'apprends rien pour moi ça vaut rien quoi. Moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut justement arriver en fait à faire ta place. Après oui, quand je dis on est trop nombreux dans le sens si tu attends que ça te tombe tout cuit en fait, toi, si tu fais pas tes propres projets, des choses comme ça. Mais non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, tout dépend aussi ce que tu veux en tant que comédien. Pourquoi tu fais ce métier-là ? Ça c'est important aussi. Si tu fais ce métier-là parce que tu veux devenir célèbre, que tu veux ta tête sur une affiche de cinéma, que tu veux jouer à côté de Robert De Niro, enfin, je sais pas, toi, des trucs comme ça. Ouais, là, ça peut être un peu casse-gueule. Tu peux te dire au bout de 4-5 ans, merde, j'y arrive pas. Si tu fais ce métier-là parce que t'es passionné, parce que tu peux pas vivre sans jouer, parce que c'est ta vie, voilà, moi, c'est exactement ça, en fait. Moi, toute ma vie, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit mais je ne fais pas ce métier-là pour être célèbre. Je m'en fous d'être reconnue dans la rue, je m'en fous d'être invitée aux émissions de télé. Moi, je fais ce métier-là, c'est parce que je ne peux pas vivre sans ce métier-là. Bah, de toute façon, après, t'en as plein qui abandonnent. Genre, ils font une école de théâtre, après, ils essayent 2-3 ans, puis ils voient que, voilà, ils percent pas ou quoi, bah, ils arrêtent. T'en as plein qui arrêtent. Parce que, et en plus, c'est... entre guillemets, c'est mal payé quand même au début, quand tu commences, comme beaucoup de métiers. Hein, mais, et puis, moi, là, tu peux enchaîner aussi plusieurs petits rôles ou des silhouettes ou des choses à toi où t'es pas forcément mis en avant, t'as pas le rôle, toi. T'arrives sur le tournage et tout le monde... Moi, je vois trop la différence quand tu fais une figuration. Donc, t'es pris dans... T'es un meuble, en fait, hein, clairement. Une figuration, t'es un meuble, on te pose là, puis on te dit, voilà... Et t'arrives après le lendemain, t'as un petit rôle ou quoi, alors là, ça y est, ah oh, Lucie, allez, vas-y, un petit thé, un truc. Je veux dire, et là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis toujours la même, quoi. Toi, t'as l'impression d'être la reine de l'univers, parce que ça, c'est un peu le problème en France.
Tu passes, en fait, durant. Allez, je vais schématiser, même si c'est pas ce que je pense, mais c'est évocateur, de simple potiche à déesse vivante, en fait.
Bah, c'est clair, mais ça, c'est beaucoup en France. Hein. Parce qu'en Angleterre, moi, j'ai vu sur les tournages avec des équipes anglaises, tout le monde est au même niveau. Alors forcément, les rôles sont un peu mieux traités, c'est logique, mais même des figurants, bah voilà, on est tous des êtres humains, quoi, toi, il n'y a pas cette distinction que tu peux subir avec des équipes françaises. Mais voilà. Mais du coup, il faut accepter que pendant quelques temps, on ne sait pas combien, bah, tu peux faire des figurations, tu peux faire des rôles pas payés, tu peux faire des tout petits rôles. Dernièrement, bah, hier, une metteur en scène qui m'appelle pour me dire « Ouais, j'aimerais bien te tester sur Lady Montaigu dans Roméo et Juliette. » Elle me dit « Mais je te préviens, vraiment, c'est tout petit. Enfin, toi, il n'y a pas grand-chose et tout. » J'ai dit « Mais moi, je cours pas après. Je veux la tête d'affiche, quoi. » Toi, si tu me donnes l'occasion de jouer, de monter sur scène, même si j'ai deux phrases à dire et tout, mais je suis super contente. Voilà pourquoi moi je fais ce métier-là, en fait. Bah, je pense que logiquement, quand tu as commencé comédien et que tu aimes ce métier, enfin voilà, que c'est vraiment une passion, ça coule de source de vouloir justement élargir tes compétences et de faire autre chose parce que justement tu as envie de créer. Quand t'es un artiste, enfin voilà, je veux dire artiste parce que du coup comme ça comment dire, ça limite pas vraiment au métier comédien, mais t'es dans la création, t'as envie de créer, et au bout d'un moment, c'est vrai que t'as des idées, t'as un univers, t'as tout ça, et t'as envie de le transmettre. Donc pour moi, c'est une suite logique de vouloir écrire ou de vouloir réaliser ou mettre en scène, enfin voilà. Et après, mon avis personnel, je trouve que ce sont les meilleurs metteurs en scène, les meilleurs réalisateurs, ceux qui ont été comédiens, parce que justement, ils savent diriger, ils savent parler aux comédiens aussi. Ça, c'est donc diriger un comédien, c'est... J'ai rencontré des gens qui ne savent pas parce qu'ils sont pas du milieu. Donc, comme je dis souvent en rigolant, le comédien est un animal à part. Non, mais c'est vrai, enfin... La plupart, on est quand même 99% à avoir une sensibilité exacerbée, sinon tu ferais pas ce métier-là. Tu montes sur scène, c'est pas pour rien. Tu t'exhibes, entre guillemets, c'est pas pour rien. T'as un besoin, voilà, tu fais pas ça comme ça du jour au lendemain. Enfin, si, il y en a maintenant avec la télé-réalité qui ont envie, mais du coup, voilà, il faut, ouais, faut savoir parler à un comédien, quoi. Donc je trouve que ouais, les metteurs en scène, les meilleurs, c'est ceux qui se sont exercés à ce métier-là avant. Et... Du coup, moi, pareil, je me suis mise à l'écriture. D'abord, alors ça a été... la première envie que j'ai eue, c'était surtout parce que je me suis dit « je joue pas assez ». Voilà, j'ai envie de jouer plus, on me propose pas des rôles intéressants. Et donc je me suis dit, si tu veux jouer plus, voilà, tu t'écris les rôles que tu as envie de jouer aussi. Ah oui, parce que ça, c'est une autre question, c'est que tu as une belle étiquette aussi. T'es cataloguée quand tu fais un type de rôle et que tu le fais plusieurs fois, du coup, on te voit tout le temps que dans ce rôle-là. Donc à la base aussi, quand tu veux faire ce métier-là, c'est aussi pour jouer plein d'autres choses et des choses aussi qui te ressemblent pas forcément, même si je crache pas sur les rôles qui me ressemblent ou ceux que j'ai plus de facilité à faire, enfin voilà. Mais des fois, t'as envie d'un truc différent. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, en mettant aussi mon univers sur papier, quoi, voilà, parce qu'on me voyait que dans des trucs, super strict, en colère, enfin voilà. Et moi, je suis pas... Enfin, j'avais envie de jouer autre chose. Donc j'ai commencé à écrire. Alors, le court-métrage qui a été réalisé, c'était vraiment un truc absurde. Parce que j'aime ça. Parce que j'aime aussi les histoires qui commencent et qui finissent d'une manière où tu te dis « Ah ouais, d'accord, j'avais pas du tout pensé à ça. » Donc, voilà. Et en gros, ouais, je voulais un truc, tu sais, un peu univers, un peu flic, braquage. Ouais, c'était plus des braqueurs, des trucs comme ça. Donc un truc un peu dark, blouson de cuir et tout. Puis genre, ouais, on va préparer un braquage, tout ça. Donc un univers, enfin, quelque chose que j'avais jamais fait. Et en fait, ça se finit dans un truc complètement... qui n'a plus rien à voir et qui retombe dans un quotidien, dans un truc un peu con, enfin voilà. Et puis après, alors il y a beaucoup, beaucoup en fait de choses qui sont absurdes, qui sont oniriques aussi, parce que bah, j'aime la mythologie, j'aime tout ce qui est esprit, poésie, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent comme ça dans mes thèmes.
Et ça va donner donc naissance à des œuvres que nous pourrons voir bientôt.
Bah, j'espère, ouais, bientôt, je sais pas quand, mais ouais.
Mais uniquement audiovisuel ou aussi théâtre ?
Alors, il y a deux pièces de théâtre qui sont en cours. Donc, une pièce dramatique pour le moment. Ouais, c'est que dramatique, en fait. C'est vraiment là un truc vraiment terre à terre autour du deuil. Et une autre pièce qui est plus comique et pareil, barrée, absurde. Et la deuxième pièce, elle est beaucoup plus, plus comique et elle tend aussi vers ce que j'aimais et ce que j'aurais aussi toujours voulu faire, la comédie musicale. Donc du coup, il y aura du chant, de la danse, de la musique, voilà. Un petit plaisir que je me fais. Mais bon.
Et en audiovisuel, il y a quelque chose, un court-métrage
Alors audiovisuel, ouais, j'ai un tout petit court-métrage là que je vais réaliser bientôt, j'espère. Sinon après c'est que des travaux en cours d'écriture là. Bah ouais, si. Alors après je sais pas si c'est audiovisuel. J'aimerais bien faire des petites vidéos vraiment très courtes de 2 minutes pour les plateformes YouTube, tout ça. Mais alors là c'est pas, enfin comment dire. C'est pas une fiction, c'est... Enfin, si, ce sera un peu de la fiction, mais je sais pas encore comment trop l'expliquer, ce projet-là. Mais bon, voilà, il y a plein de choses en cours d'écriture.
Ah, intéressant, tout ça. Alors, maintenant, c'est une question plus générale que je vais te poser. Tu connais les difficultés que rencontre actuellement le cinéma français, l'audiovisuel français.
Pas du tout.
T'as dû peut-être entendre parler au travers de Google News ou de même de la part de tes collègues qui y sont confrontés aussi.
Ouais.
Le fait que le système se sclérose, devient un peu trop élitiste et est inadapté à notre époque, hein, notamment son mode de financement. Et à cause de ça, on essaie de préserver un certain modèle, mais qui lui-même est has-been, je dirais, et date. Et par rapport à la télévision et aux plateformes, le modèle audiovisuel français, au-delà du cinéma français, est en perte de vitesse, quoi. Enfin, est en train de chuter, quoi, de s'asphyxier lentement. Je prends par exemple ce que disait Iris Buchère, qui a été productrice des Combattantes et aussi responsable de la production de la collection Meurtre A. Elle disait en 2021, la production télé, de séries a été de 2 milliards d'euros et elle est déjà passée à 2 milliards 800 millions. Sachant que Les Combattantes, hein, est une série qui a coûté 20 millions d'euros, ça laisse présager une augmentation de 40 séries en plus. Est-ce que la production française va tenir la route? Là, il n'est pas simplement question de cinéma, même de télévision, de streaming, d'internet, tout ce que tu veux. Est-ce que pour toi, c'est une... Comment dire, on va s'adapter dans les temps, ou alors il va falloir ajuster au coup par coup, parce que moi-même je pense, et que ça va être une opportunité extra... une grande opportunité pour des comédiens et comédiennes comme toi pour faire leurs preuves, quoi. Enfin, en tout cas, avoir une plus grande visibilité et avoir une carrière beaucoup plus épanouie.
Alors, personnellement, je ressens pas encore ça, moi. Je sais pas si ça viendra dans le futur, mais je trouve que c'est vachement fermé, quoi. C'est ça que tu veux dire par rapport aux comédiens?
Oui.
Ah, un thème plus général? Parce que moi, du coup, c'est que mon point de vue de comédien que,
non, mais
que
c'est,
j'ai.
C'est ce qui m'intéresse.
Et c'est compliqué dans le sens où quand... Après, je sais pas si je réponds bien à la question là, mais tu veux dire, est-ce qu'il y aura plus de projets?
Oui, est-ce qu'il y aura plus de projets potentiellement qui pourront pousser les recruteurs et les producteurs à faire davantage appel à des comédiens qui jusqu'alors vivotaient ?
Oui, alors le problème c'est que je trouve que, notamment pour la télévision en tout cas, on prend toujours les mêmes. Voilà, et en plus, t'es un comédien, genre un comédien TF1 ou France 2, enfin voilà, et du coup, tu vas faire toutes les séries de la même chaîne. et en fait, je trouve que les productions, c'est les producteurs, je pense, les chaînes, je sais pas qui décide à la fin, mais ne se mouillent pas, en fait, toi, ne prennent pas de nouvelles têtes d'affiche parce qu'il faut vendre. Voilà, c'est que ça. Et c'est pareil, tout ce qui va être cinéma, Netflix, enfin voilà. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup de personnes qui venaient des réseaux sociaux. Voilà, parce qu'ils ont des vues. On te demande aussi, moi-même, rien qu'à mon petit niveau, on m'a déjà demandé deux fois combien de gens me suivaient sur les réseaux pour savoir si c'était intéressant de me prendre ou pas. Tu vois ? Parce que si j'ai 10 000 personnes qui me suivent, ça leur fait potentiellement 10 000 spectateurs, 10 000 personnes qui vont acheter leur billet, enfin voilà. Et je trouve ça scandaleux, en fait. Parce qu'en fait, c'est... En gros, si tu veux, comme je dis souvent, pour travailler, il faut déjà travailler. Voilà, on te fait travailler que si tu travailles déjà, que si en fait tu peux prouver que tu travailles déjà, mais sur un gros projet, hein. Attention, pas un petit projet comme ça ou quelque chose de pas rémunéré, tout ça. Enfin, faut déjà avoir un gros contrat avec une chaîne, une prod, une plateforme ou je sais pas quoi, montrer que voilà, on te veut pour que on te prenne. Mais
donc c'est voyage en absurdie, en fait.
Oui, et en même temps. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Hein.
Mais justement, il faudrait peut-être... Ils s'en sont rendus compte que ça change.
Après, ça peut changer éventuellement avec les jeunes qui arrivent, qui deviennent réalisateurs, qui, eux, pourraient peut-être choisir des gens qui ne sont pas déjà connus, quoi. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Alors après, ça, c'est mon point de vue de spectateur. Ça ne m'intéresse pas de voir, entre guillemets, je ne vais pas donner de nom, mais toujours le même comédien dans tous les téléfilms ou dans tous les films et tout ça. Enfin voilà, au bout d'un moment, tu as envie de voir autre chose, quoi. Si encore après, le mec ou la nana sait jouer, enfin vraiment, arrive à se transformer, arrive à avoir un jeu différent, tout ça. Mais c'est compliqué. Moi, la première, souvent, tu joues avec ce que t'es, donc tu voilà. C'est très très dur de changer vraiment totalement d'un rôle à l'autre, toi. Donc, c'est dommage. Mais après, c'est à toi de faire tes projets, c'est à toi de passer par la petite porte, quoi, qui aujourd'hui est Internet, les réseaux sociaux, enfin voilà, d'essayer de percer comme ça, d'essayer de faire des vues, parce qu'en gros, maintenant, c'est que ça. Il faut arriver à faire des vues, il faut avoir le plus grand nombre de vues pour après te présenter à... je sais pas, une télé, une radio, enfin j'en sais rien ce que tu veux faire, mais pour montrer, regardez, vous voyez, il y a des gens qui me regardent, hein, donc c'est bon, hein. Ça marche. Peu importe si tu sais jouer ou pas, on s'en fout. Peu importe si ce que tu fais c'est de la merde ou pas, on s'en fout. Du moment qu'il y a des gens qui te regardent, c'est bon, ça passe.
Le cinéma français, et par extension l'audiovisuel, a été un point de référence dans le monde entier. Même la toute-puissante Hollywood et son industrie croqueuse de stars et génératrice de blockbusters, spectaculaires, se sont toujours revendiquées d'une influence hexagonale. Mais aujourd'hui, les professionnels du secteur s'alarment d'un déclin de plus en plus prononcé. Les indices ne manquent pas pour accréditer cette assertion. Films de moins en moins originaux et attractifs, désaffection des salles pour le streaming et les plateformes, peu de projets aboutissent et il n'y a pas de renouvellement des professionnels qui y travaillent. Les auteurs comme les comédiens. Ce petit monde semble s'être même recroquevillé dans un conservatisme convenu. Au sein de l'école même, affairés à leur projet d'études, Ed, Julien et Lou ont un avis plus nuancé. Chacun ont leurs objectifs, leurs aspirations, et rien ne semble les perturber.
Moi je suis Ezra Richardson et je suis étudiant en école de cinéma et j'essaie d'intégrer dans le dans, dans le métier du cinéma. Les images, la lumière, par exemple les caméras aussi, ça m'intéresse aussi. Du coup, c'est... Chef Up m'intéresse, mais Chef Electro aussi, ça m'intéresse aussi. Oui, Electro. Oui, j'ai trouvé des stages par des contacts que je connaissais déjà. Je créais d'autres contacts aussi. Je suis en train de faire plus de contacts actuellement parce que à chaque tournage que je fais des tournages extérieurs et du coup je retrouve d'autres gens. Par exemple, j'ai trouvé un acteur qui a pu m'aider à trouver un autre stage, des choses comme ça. Du coup, ça m'intéresse de créer des contacts nouveaux et tout. Pour le moment, c'est le cinéma, mais je suis pas contre l'idée de faire du télévision non plus, mais c'est vraiment pour le moment, toutes les choses que j'ai trouvées, c'était plutôt pour le cinéma et plus spécifiquement pour les courts-métrages, très souvent, parce qu'ils recherchent des gens parfois moins expérimentés déjà, parce qu'ils ont pas... Bah, dès que c'est un vrai film, les gens ils recherchent de l'argent et du coup il y a déjà un professionnalisme en termes de prix qui est demandé, du coup... C'est pour des techniciens. Mais pour les courts-métrages, on peut trouver des jobs assez facilement sur des tournages courtes, du coup. Oui. Non, bizarrement, en fait, moi je trouve pas que le fait que je suis à l'ESRA va vraiment m'aider à trouver des stages spécifiquement. Je pense que c'est plutôt... Genre, il faut quand même en chercher, dans tous les cas. Mais ce serait à cause de moi si ça s'aplatisserait, je pense. C'est pas à cause de l'école ou c'est pas à cause du fait que je suis en deuxième année. Si moi j'arrête d'en chercher, j'en trouverai plus, en fait. Ça va pas venir à moi dans tous les cas, du coup il faut quand même que je les cherche. Oui, en fait, si moi je cherche pas à avoir un stage, je vais pas en avoir, du coup, en fait. Mais pour le moment, j'ai pas de problème à trouver des stages. Et tout. En vrai, je sais pas encore, parce que je suis quand même en deuxième année, du coup je sais pas comment ça va être en sortie de troisième année, mais je pense pas que ça va être la plus dure des choses, tant que j'essaye pas de rentrer dans un job trop haut, trop rapidement, en fait. Je pense que si je commence assez bas, normalement il y a déjà un emplacement pour des gens comme moi qui commencent. Mais dans tous les cas, si j'essaye d'être chef op dès ma sortie de l'école, je vais pas réussir. Du coup, ça n'a pas de sens pour un producteur, par exemple, d'embaucher quelqu'un de nouveau pour être chef op sur un projet professionnel. Je vois pas pourquoi il voudrait faire ça, en fait. C'est trop risqué. Du coup, c'est beaucoup mieux de commencer plus bas, de créer une petite connaissance avec d'autres gens. Et au fil du temps, peut-être augmenter ou peut-être même rester au même job, mais sur des tournages plus gros. Je sais pas pour le moment, mais dans tous les cas, j'aimerais rentrer dans le métier pour un job qui soit convenable pour quelqu'un qui a mon expérience à moi, du coup. Pour moi, j'ai jamais ressenti cette inquiétude. Je sais que le système actuel n'est, à mon avis, pas possible à garder pour l'infini, mais je pense pas que ça va être aussi blessant pour l'industrie que certaines personnes le disent, et je ressens pas ce même problème, forcément. C'est juste, je pense qu'on est quand même dans un peu un bubble du système actuel, et ça va, au bout d'un moment, ça va exploser le bubble, mais je sais pas à quel moment, et en vrai ça me dérange. C'est pour le moment, ça me cause pas trop de soucis personnellement. Parce que je sais que sûrement, même si le bubble du cinéma s'écrase, en théorie, il va y avoir d'autres choses à côté qui sont quand même en lien. Par exemple, je pense que si le cinéma elle commence à exploser, la télé va sûrement rester un peu pareil ou l'inverse. Et ça va pas être dans tous les domaines que ça va s'exploser en même temps, je pense. Mais en fait, je pense aussi que ça va être assez loin dans le futur. J'ai peut-être tort. Mais je pense que ça va s'exploser, mais ça va se récupérer assez vite aussi. Parce que il y a quand même une recherche, il y a quand même des emplois, plein de gens qui veulent chercher des emplois, plein de gens qui veulent faire des films, il y a plein de gens qui veulent travailler sur des films. Du coup, je pense, même si, oui, peut-être à un moment, ça va s'écraser le système, ça va se récupérer assez vite, je pense.
Il est vrai que son financement pâtit du succès des plateformes telles Netflix ou Disney+. La télévision a pris le pas en matière de programmes plus ambitieux et originaux. Des scénarios que l'on voyait plutôt produits par le grand écran autrefois le sont désormais par la petite lucarne qui, pour le coup, gagne en image auprès du public. Le chiffre de 2 milliards d'euros constitue l'investissement en production de séries TV diffusées en télé et streaming en 2021. Et cette année 2022, nous avons atteint la barre de 2 milliards 800 millions. L'accroissement est énorme. À titre de comparaison, la production TV Les Combattantes de TF1 représente la série française la plus chère à ce jour, soit 20 millions d'euros. Autrement dit, c'est comme si à l'échelle mondiale en 2022, par rapport à l'année précédente, 40 séries en plus étaient arrivées sur le marché. Alors que notre cinéma dans le même temps faisait son plus mauvais score depuis 1980, soit moins de 7 500 000 entrées, c'est toujours les salles qui financent le 7e art dans notre pays. Le constat est dramatique. La télévision ne peut espérer plus. Une série américaine comme Game of Thrones représente la totalité de la dotation budgétaire du groupe France Télévisions avec ses 5 chaînes. Alors oui, si l'on tient compte des chiffres, il y a péril en la demeure. Qu'en est-il des professionnels du secteur ? La cérémonie des Césars, palmarès de récompenses prestigieuses couronnant le cinéma français, sert de thermomètre à la situation et nous y découvrons critique sur critique. Films de moins en moins originaux, il n'y a pas de relève, que ce soit les producteurs, les comédiens, les réalisateurs. On se traîne les mêmes depuis longtemps, trop longtemps. Déphasage avec l'époque, manque de diversité. L'art populaire par excellence serait devenu le refuge d'une oligarchie ultra-conservatiste. Pire, les professionnels du secteur ont appelé à des états généraux du cinéma et a fortiori, là encore, de tous les domaines que pour des réformes soient lancées. Comment ? En appelant au gouvernement pour qu'il vienne à leur aide à coup de nouvelles subventions. Gouvernement qui est lui-même en peine pour son budget. On marche sur la tête. Le salut vient de la relève, de ces hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ne s'inquiètent pas outre mesure de ces cris d'alarme.
Moi je m'appelle Julian Hardy-Falk, je suis franco-norvégien et je suis en école de cinéma à Paris. Enfin, j'ai fait un stage, c'était pas en France mais c'était en Norvège, à la télé. Alors du coup, j'ai eu ce stage à travers mon voisin, qui était cadreur du coup dans cette chaîne de télé. Qui est l'équivalent de France 2 en Norvège. C'était une super expérience, c'était qu'une semaine malheureusement, parce que c'était un peu mon premier stage. Mais j'ai vraiment adoré, on faisait à la fois du montage, mais aussi beaucoup de cadres, on allait dans la rue interviewer des gens, que ce soit des ministres, des personnalités publiques, ou même ce que des personnes pensaient de faits d'actualité. Et c'était très intéressant, voilà. La Norvège, je pense pas, parce que c'est quand même un petit pays. C'est l'industrie du cinéma qui m'attire le plus et elle est pas très grande là-bas. Soit en France, soit peut-être aux États-Unis, soit on verra. Pourquoi pas ? Il faut essayer et on verra bien. Enfin, y a quand même pas mal de personnes françaises qui sont parties aux États-Unis et pour qui ça a marché, donc pourquoi pas moi. Alors que je connaisse particulièrement, non. Après, dont j'ai entendu parler, oui. Notamment, je pense que c'est le directeur VFX chez Lucasfilm qui était venu nous parler. Je pense à lui parce qu'il est venu nous voir il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on regarde les génériques par exemple de films anglo-saxons, on peut voir des listes de personnes qui étaient à l'ESRA avant par exemple, dans notre école. Alors, incertain déjà, parce que ça c'est... Même avec tout ce qui se passe en ce moment, même avec les plateformes de streaming, c'est sûr que c'est un peu incertain. Après, je pense que si on a vraiment la motivation, si on a vraiment l'envie, on peut toujours réussir. Et je pense qu'il y aurait quand même, il y a quand même un avenir, même s'il est incertain et peut-être moins glorieux qu'avant. Il y a un avenir et après, peut-être que le modèle, le cinéma, de télé, va dériver, parce que comme il est déjà en train de faire. Mais c'est pas pour cela qu'il y aura plus de travail. Il sera juste différent.
Le cinéma et l'audiovisuel chez nous s'adaptera comme il a toujours fait. Il y a un défi, certes, mais la jeunesse se fait fort de le relever. Le nombre de techniciens et d'artistes prêts à s'investir et qui déjà s'investissent est grand. L'énergie est là.
Alors, je m'appelle Lou, je suis en deuxième année d'ESRA et pour l'instant, je souhaite m'orienter vers le scénario. C'est très structuré et c'est à travailler tout le temps. Du coup, il y a besoin de beaucoup de scénaristes dans ce métier, même si c'est un métier pas facile parce que c'est pas forcément facile de vivre que de ça. Et du coup, je pense même si le scénario m'intéresse, je vais me diriger vers plein d'autres choses, genre la décoration, la régie, plein d'autres choses. De base, oui, je suis plus littéraire que technique, mais j'aimerais bien me pencher plus sur la technique cette année pour en profiter de l'école et tout ça, pour voir si ça m'intéresse aussi. J'ai déjà fait de la réalisation l'année dernière pour le projet de fin d'année. C'était pas un chef-d'œuvre malheureusement, mais j'étais contente de faire partie du projet et tout ça. Et pourquoi pas le refaire. Je pense que quand j'écris, j'ai envie de le réaliser, parce que c'est comme mon petit bébé. J'ai envie de faire en fonction de ma vision. Ouais, en même temps, d'un côté, j'essaie d'être objective et je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et en même temps, c'est bien de voir qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà. C'est en général les youtubeurs qui sont devenus scénaristes, cinéastes, genre Cyprien. J'adore son univers. Déjà ? Et aussi une chaîne qui n'est pas très connue qui s'appelle Les Parasites. Ils ont fait une série qui s'appelle L'Effondrement, qui est géniale, et genre une autre série Cocovoit. Et vraiment, j'adore ce qu'ils font et j'aimerais trop travailler avec eux. C'est eux qui m'inspirent. Après, je vois pas d'autres. Après, il y a plein de séries, mais je connais pas spécialement les scénaristes. À part à m'intégrer plus tard, j'en ai aucune idée. Je croise les doigts. Mais surtout, j'espère trouver des gens avec qui c'est cool de travailler et on s'entend bien. Et à mon avis, c'est comme tout, faut d'abord commencer en bas l'échelle et puis après monter. J'espère trouver une place en bas l'échelle déjà. Mais à mon avis, le fait que je sois une femme, ça change pas grand chose parce que j'ai l'impression quand même que ça a évolué comparé à avant. En tout cas, j'espère. Et de toute façon, je vais bien voir. Voilà. L'environnement de l'école va vraiment bien au niveau intégration, avec le BDE qui permet de faire des soirées, tout ça, de se rencontrer. Donc, franchement, ça va. Et après, c'est ce que je trouve qui est un peu dur, c'est de trouver des stages. Parce qu'on n'a pas de semaine où on doit faire des stages. On doit les trouver pendant les 3 ans. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ça veut dire pendant notre. Pendant les vacances scolaires, moi j'aimerais en profiter pour travailler, gagner de l'argent. Et là, je peux pas, je suis obligée de faire des stages, du coup c'est un peu embêtant pour moi. Mais oui, c'est clair, les stages ça va aider à se trouver un petit peu une place et rentrer dans le milieu, c'est cool. Pour l'instant je cherche, mais j'ai pas trouvé. Donc là pour l'instant, je trouve que c'est dur, après quand j'aurai trouvé, c'est comme tout. Il y a du temps pour trouver. Temps pour chercher.
Il est vain de s'accrocher à quelque chose de moribond. Le cinéma, l'audiovisuel est l'art du vivant. Et à ce titre, il est destiné à changer. Il faut l'accepter et prendre à bras le corps les défis de demain.